Les enjeux internationaux.
6h50, le soleil se lève sur les enjeux internationaux et sur Thierry Garcin. Bonjour Thierry.
Avec un beau soleil rouge par la vitre. Guillaume, comme prévu, le Vatican avec notre invité Jean-Baptiste Noé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur d'une géopolitique du Vatican paru l'année dernière en presse universitaire de France. Alors, on va voir donc quel est le rôle du pape François dans les relations internationales. La première chose qu'il faut dire, évidemment, c'est que le pape Jean-Paul II avait régulièrement, lui, occupé la scène internationale et même joué un rôle central dans l'affaiblissement du communisme en Europe. Alors, comment caractériser les débuts du pape François? Il a été élu il y a exactement 3 ans, en mars 2013. Il vient d'Amérique latine. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il accorde autant d'importance que Jean-Paul II à la lutte contre les grandes injustices? Est-ce qu'il voyage autant? Quelles sont peut-être ses priorités? Quelle méthode privilégie-t-il? On va peut-être parler aussi de la question des réfugiés syriens en Europe. Beaucoup de questions. Alors juste d'un mot, géopolitique du Vatican. Alors on dit traditionnellement Vatican parce que c'est une facilité de langage, mais en fait, il faudrait dire le Saint-Siège, et vous y revenez dans votre ouvrage.
Oui, c'est ça. Le Vatican, c'est le territoire, c'est la cité du Vatican que l'on voit à Rome. Et le Saint-Siège, c'est l'entité juridique. Dans les relations internationales, c'est le Saint-Siège. La France a un ambassadeur près le Saint-Siège et non pas près du Vatican.
Voilà. Alors, il y a d'ailleurs, vous parlez de l'histoire du Saint-Siège, qui n'est pas si simple que ça, et qui est très, très intéressante. Alors, il y a tout un réseau diplomatique, donc, au Saint-Siège.
Oui, c'est l'État qui a le plus de relations diplomatiques. Ils ont plus de relations et d'ambassadeurs que les États-Unis. Ils sont deuxième ou troisième, c'est pas comment on compte. Et puis, c'est surtout un réseau extrêmement ancien. Et c'est un État qui a été le premier en Europe à créer une école pour former les diplomates, qui est encore présente, on la voit, à Rome, une académie. Pour former les diplomates sur lesquels les autres États d'Europe ont pris modèle. Et donc c'est vrai que dans les relations internationales, de par son réseau et de par son ancienneté, cet État joue un rôle majeur. D'ailleurs, les nonces ont le titre honorifique de premier ambassadeur quand il y a une réunion d'ambassadeurs dans un pays.
Alors, ce n'est pas le sujet, mais d'ailleurs, les pays qui ont le plus de représentants, de représentations diplomatiques, sont dans l'ordre, en dehors du Saint-Siège, les États-Unis, la Chine qui arrive maintenant en deuxième et la France en troisième. Alors, qu'a-t-il fait au fond depuis 3 ans et comment a dessiné un peu son rôle et sa fonction, on va dire, dans les relations internationales?
Il y a une continuité hein, avec les pontificats précédents, notamment enfin Benoît XVI et Jean-Paul II pour la deuxième partie, la partie post-guerre froide. Il y a un point que je note et qui me paraît essentiel parce qu'il en parle régulièrement, c'est l'écuménisme. Alors il y a eu la rencontre entre lui et le patriarche Cyril à Cuba, qui était quand même un événement très important dans l'histoire du christianisme et dans les relations internationales. Et là, à Lesbos, vendredi dernier, lorsqu'il y a eu cette rencontre, ce qui a été peu noté aussi, c'est que c'était une rencontre entre le pape, le patriarche d'Athènes et le patriarche de Constantinople. C'est également une première, et quand on connaît l'animosité historique qu'il y a entre ces différentes entités, c'était un événement très important.
Oui, c'est ça. Alors, c'est à une valeur plus que symbolique, cette rencontre à Troyes.
Oui, parce que le symbole d'abord est important en diplomatie. La diplomatie, c'est quand même une histoire d'idées,
de mots.
Et donc le symbole n'est pas anecdotique. Il pèse fortement. Et puis c'est quand même une des armes essentielles de la diplomatie. On peut pas combattre avec des chars, mais en tout cas de manière symbolique, là on peut faire valoir les choses. Et puis il y a l'idée que face à un monde qui est extrêmement complexe, il parle beaucoup de la mondialisation dans ses discours. Ça revient régulièrement. Il prend une très belle image qui est celle du polyèdre. On parlait peut-être de mondialisation multipolaire, mais il évoque le fait que les chrétiens doivent s'unir pour répondre aux défis de la mondialisation, que ce soit les défis écologiques, les défis des injustices, les défis des migrations, et qu'il faut qu'il y ait cette unité, par exemple, d'écuménisme du sang. Ça, c'est très marqué dans les pays où les chrétiens sont attaqués, notamment au Proche-Orient, mais cette idée que les attaques permettent ou doivent favoriser l'union des chrétiens.
Oui, c'est au fond une mondialisation qui n'est pas vue sur le seul plan économique ou financier, qui était le terme originel en anglais, globalization, c'est les finances.
Exactement, il a élargi, et puis avec cette idée que tout problème qu'il y a dans une partie du monde a des conséquences ailleurs, et donc qu'il faut traiter les causes, et non pas uniquement les mouvements que l'on peut constater.
Vous parliez du rapport avec l'orthodoxie. Si mes souvenirs sont bons, le pape Jean-Paul II disait que l'orthodoxie et le catholicisme, c'est une phrase vraiment de mémoire, c'était les deux poumons du christianisme. Est-ce que c'est une continuité dans l'action diplomatique, on va dire, du Saint-Siège?
Oui, complètement. Là, il est dans cette grande continuité. D'ailleurs, la rencontre qu'il y a eu à Cuba dernièrement a été possible parce qu'il y a eu, ça fait 20 ans qu'il y a des échanges entre les deux églises. C'est un aboutissement. C'est pas le pape François a récolté les fruits puis les a portés à terme, mais c'est un aboutissement de 20 ans d'efforts.
Alors Jean-Baptiste Noé, je regardais si le décompte est bon, je n'en suis pas sûr. 5 voyages en Amérique latine, 4 en Europe, 3 en Asie, 1 au Proche-Orient, Moyen-Orient, 1 aux États-Unis, 1 en Afrique. Alors si encore une fois c'est exact, est-ce que ce sont des choix, ou en tout cas c'est un décompte révélateur de quelque chose?
Il essaye d'aller dans des pays où il n'y a pas trop d'enjeux politiques immédiats. Par exemple, il n'a pas été en Argentine parce qu'il y avait les élections présidentielles. Il ne voulait pas interférer. Et puis, on sait qu'il a une grande passion pour l'Asie. C'est aussi le côté jésuite qui l'attire beaucoup. Il rêvait d'être missionnaire au Japon. Et puis après, il va dans des pays quand une occasion importante se présente. Aux États-Unis, il y avait notamment la journée des familles. C'était pendant le synode. C'était important. Bon, Cuba pour cette rencontre. Et puis, il s'est attaché également à être dans des pays où les papes n'avaient pas encore été. Donc, alors c'est pas valable à tous les coups parce que Jean-Paul II a beaucoup voyagé, mais d'aller notamment en Europe, il s'est rendu en Albanie et à Sarajevo, c'est pas forcément les pays les plus catholiques ni ceux auxquels on aurait pu penser de prime abord.
Et à ce jour, encore une fois, si c'est exact, un voyage en Afrique, alors que Jean-Paul II, on fait toujours référence à Jean-Paul II parce qu'évidemment, son rôle international a été considérable. Est-ce que c'est révélateur de quelque chose en Afrique? Alors il y avait peut-être de nombreux pays qu'il visitait lors de ce voyage, je ne sais pas.
Oui, il a fait la Centrafrique et le Kenya, donc il en a fait deux, mais bon, on sait que c'est toujours compliqué en termes d'organisation pour la sécurité aussi, il y a quand même beaucoup de pays.
Et en même temps, c'est 1,1 milliard d'habitants.
Et ça pèse beaucoup, bon, il y aura probablement d'autres voyages par la suite.
Alors, il y a une chose aussi qui est frappante sur le plan international, c'est là, est-ce que c'est son côté latino-américain d'origine, encore que l'Argentine prévaut d'être très européenne et autant que latino-américaine, est-ce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'il défend cette diversité culturelle? Est-ce que ses origines géographiques l'expliquent?
Alors ça, c'est effectivement un trait caractéristique de sa pensée. Il a donc repris cette image du polyèdre dans la mondialisation, avec cette idée qu'il ne faut pas qu'il y ait un État dominant. Alors, il ne l'a jamais dit, mais enfin, on comprend bien que c'est comme les États-Unis auxquels il fait mention. Et c'est vrai que pour un Argentin qui a quand même connu une ingérence forte des États-Unis dans son pays, c'est important. Et puis, on voit que lorsqu'il fait un voyage, notamment en Amérique latine, à chaque fois, il rend visite aux communautés autochtones et il les encourage à vivre leur culture et à ne pas se laisser mondialiser au sens où il y aurait un effacement des cultures. En Afrique, au Kenya, par exemple, il a eu un très beau discours où il a parlé du colonialisme culturel, en invitant les Africains à ne pas céder à ce colonialisme, à être fiers de leur culture, de leur histoire, et à les travailler, à les développer. Et ça, c'est effectivement un point central de ses discours et de ses voyages.
Voilà, en tout cas, merci de cet éclairage. Et ses prochains voyages, vous le savez, il va dans le Caucase.
Aller en Arménie au mois de juin.
En mois de juin. Alors, géopolitique du Vatican, presse universitaire de France, franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Demain, nous allons parler d'une zone tout à fait passionnante, hélas de plus en plus violente, la zone du Sahara, la bande saharo-sahélienne, avec notre invité qui sera Georges Courade.